Avant de commencer, je pense vous devoir une petite explication. En relisant mon texte ce matin, je me suis aperçu que j'avais peut-être eu tort de vouloir développer une question aussi ténue que l'évolution intellectuelle et politique de Bataille concernant la communauté en une heure de temps. Ce sujet conviendrait plutôt au chapitre d'un livre. Et si donc mon argument vous semble parfois trop concis, voire même lapidaire, je voulais vous dire que je serais très heureux de poursuivre la conversation au cours de ce banquet. Je partirai d'une phrase de Bataille, placée en exergue à mon livre, provenant d'un article de 1948 intitulé « La religion surréaliste », phrase pour le moins énigmatique que je reprendrai dans la conclusion. Voilà la phrase. « L'appartenance de toute communauté possible à ce que j'appelle, en des termes qui sont pour moi volontiers étranges, absence de communauté, doit être le fondement de toute communauté possible. » Fin de conclusion. Suivant l'époque et la culture, certains mots gagnent du poids. Ils se chargent de sens, ils prennent une valeur spéciale. Puis ils finissent par s'apparenter aux incantations ou aux formules magiques. Aujourd'hui, le mot « communauté » est de ce type-là. Première remarque, la fascination pour la communauté n'est pas notre apanage. Polis athénienne, république romaine, communauté chrétienne, ville franche et corporation de l'ancien régime, syndicats, loges maçonniques, et j'en passe. La quête d'un lieu social, d'une cohésion parfaite, n'a cessé de hanter l'imaginaire des hommes. Ceci dit, malgré sa durée, le désir de communauté connaît de nos jours une recrudescence. Et il y a à cela des raisons faciles à comprendre. Plus les rapports entre les personnes se dégradent, plus le tissu social se distend, et plus la nostalgie d'un tout organique où chacun acquiert une identité se renforce. Dans notre société hyper individualisée où dominent le calcul et la compétition, la communauté évoque par contraste la chaleur, la confiance et la sécurité. La communauté, c'est le toit familial, le havre qui nous garde contre les dangers et l'anonymat du monde extérieur. À l'intérieur de cet espace règne une solidarité immanente. Chacun se connaît parce qu'il se reconnaît. Si l'un tombe, les autres le relèvent. Bref, la communauté représente l'espace social le plus éloigné de celui où nous vivons, le plus étranger au monde cynique de la bureaucratie, des banques et de la production à tout prix. En somme, la communauté offre à peu près tout ce que nous souhaitons, mais dont nous manquons. Et c'est justement là un de ses principaux caractères. La communauté se pense au passé ou au conditionnel. Elle a été, ou elle aurait pu, ou elle pourrait être, la seule certitude étant qu'elle n'est pas. Elle n'est pas disponible dans ce monde ici-bas. Et c'est pourquoi la communauté fait office de paradis perdu, d'âge d'or disparu. Quel est aujourd'hui notre fantasme ? La première approche théorique de la communauté date de 1922, avec le livre désormais classique du sociologue allemand Ferdinand Tönnies, « Communauté et société ». Gemeinschaft und Gesellschaft. J'utiliserai parfois les termes allemands pour éviter les confusions. À l'époque de Tönnies, le capitalisme européen est en plein essor. La société, Gesellschaft, qu'il décrit, c'est en gros la nôtre. La société de marché, basée sur la production utile et sur la répartition des biens et des tâches en fonction de l'argent. L'aspect principal de ce dispositif économique, ou plutôt socio-économique, est d'être, en un seul mot, artificiel, abstrait. Réglé par l'arithmétique du profit, il n'accorde aucune valeur à la terre, à la tradition ou au rapport de parenté. Et on le sait, en regard du marché, les hommes n'existent que par ce qu'ils produisent et ce qu'ils consomment. Le ciment qui les tient ne relève pas de l'expérience d'un vivre ensemble, partagé à travers les générations, mais du contrat passé entre deux parties selon l'intérêt mutuel. Le résultat, vous le connaissez, c'est l'atomisation sociale. La Gesellschaft est dominée par la compétition entre deux volontés divergentes. Je cite Tennis, « Ici, chacun vit pour lui-même de manière isolée, en état de tension permanente avec les autres. Cette attitude négative vis-à-vis d'autrui devient la norme qui sous-tend les relations entre individus avides de pouvoir. » Comparé à la Gesellschaft, la Gemeinschaft, la communauté, est à peu près le modèle inverse. Organisme naturel au lieu de machine construite. Au caractère abstrait et anonyme de la société, la communauté oppose les données du territoire, de la tradition familiale et l'harmonie parfaite qui unit ses membres. La théorie de la Gemeinschaft, écrit Tennis, repose sur l'assomption d'une parfaite unité des volontés humaines en tant que condition naturelle. Et j'insiste sur le mot « naturel ». Et il donne comme exemple les rapports entre la mère et l'enfant. Cette entente instinctive, précédant les calculs, est véritablement l'élément distinctif de la Gemeinschaft. Ce qui fait d'elle la forme sociale la plus organique et la plus totale. Le sentiment réciproque d'être lié constitue la force sociale qui tient ensemble les êtres humains en tant que totalité, écrit Tennis. Cette idée de totalité est ici cruciale. Pourquoi ? Parce qu'elle est l'origine du dilemme que pose la nostalgie de la communauté comme paradis social perdu. Comment en effet conjuguer notre attachement à la liberté, au droit inaliénable de l'individu à construire son histoire, avec l'appartenance de fait à une collectivité figée hors du temps, allergique au changement et à la mise en cause. Appartenir à la communauté a un prix, et ce prix est celui de l'autonomie et de la tolérance. On ne peut pas tout avoir. Manquer de communauté, c'est manquer de chaleur et de sécurité. Mais être partie de la communauté, c'est manquer d'ouverture et de liberté. Ce dilemme, je propose de le réfléchir à travers l'expérience qu'en fait Georges Bataille dans les années 30, entre deux moments de son itinéraire intellectuel et politique. D'une part, sa rupture avec le surréalisme, de l'autre, la fondation du Collège de sociologie en association avec Roger Kellois. Dans ma présentation, j'essaie de suivre le mouvement par lequel la communauté se dépouille peu à peu de l'élitisme et du messianisme qui la ferme sur elle-même pour s'ouvrir finalement sur sa propre absence. Je pars d'une citation extraite de la dernière intervention de Bataille au Collège de sociologie en juillet 1939, quelques mois avant la déclaration de guerre. « Nous ne sommes en entier que hors de nous, dans la plénitude humaine d'un rassemblement. Mais nous ne sommes en entier qu'ayant répondu en nous assemblant à notre exigence intime. Ainsi, dans la mesure où nous ne voulons plus être mutilés, nous sommes en quête d'une communauté seconde dont les fins aient en nous le total assentiment de l'être. L'itinéraire politique de Bataille porte la marque d'une époque. Bataille appartient à cette génération coincée, si l'on peut dire, entre deux guerres. Une génération qui découvre l'autre visage de la Gesellschaft. Non plus celui des utopies rationalistes du siècle précédent, Renan, Comte ou Fourier, mais le visage de la destruction avec la boucherie de 1914 et la fortune des marchands de canons. La plupart des articles écrits au début des années 30 sont une critique radicale du capitalisme, de ce que Bataille appelle la société homogène, et qu'il décrit ainsi, je cite, « la société productive ou société utile dans laquelle la commune mesure de l'argent permet de réduire l'homme à une entité abstraite interchangeable qui l'apparente aux choses. » En 1933, Bataille publie dans la revue d'extrême gauche La Critique sociale, le texte qui va définir tout le mouvement de sa pensée, la notion de dépense. À la réification ou à la chosification de l'homme par la production utile, il oppose le principe de la dépense improductive. L'être humain dépense son énergie non pas simplement pour se reproduire ou pour se conserver, mais pour exister pleinement, totalement. L'homme n'existe en entier, écrit Bataille, que dans le déchaînement des passions. C'est-à-dire quand il excède les limites de son individu pour se dépenser sans compter, fût-ce au péril de sa propre vie. Dans les sacrifices religieux, l'effervescence collective des fêtes, également dans les révolutions, les guerres et, de façon privilégiée, dans l'activité érotique. Et c'est précisément cette économie de la dépense à perte qui, pour Bataille, a déserté la société bourgeoise et capitaliste, la privant du même coup de son dynamisme et de sa cohésion. Je cite, « Sans dépense d'énergie, il n'y a pas d'existence collective. Il n'y a pas même d'existence individuelle possible. En conséquence, l'homme ne peut pas vivre sans rompre les barrières qu'il doit donner à son besoin de dépenser. » Le second facteur dans l'évolution de Bataille, c'est la montée de ce qu'on appelle les religions séculières, fascisme et communisme. La ferveur populaire qui porte ces mouvements a pour effet de mettre en relief la faiblesse politique des démocraties, en l'occurrence la Troisième République française sur le déclin. Pour Bataille, cette faiblesse résulte avant tout du manque d'un pouvoir plein, incarné dans un chef qui s'impose aux masses et qui les magnétise. Face à ce pouvoir de type charismatique, le légalisme des dirigeants démocrates, littéralement, ne fait pas le poids. Je cite ce passage de l'article « La structure psychologique du fascisme » paru également dans la Critique sociale en 1934. Je pense que certains vont être choqués par cette citation. Opposé aux politiciens démocrates qui représentent dans les différents pays la platitude inhérente à la société homogène, entendre la démocratie capitaliste, Hitler ou Mussolini apparaissent immédiatement en saillie comme tout autre. quels que soient les sentiments que provoque leur existence actuelle, il est impossible de ne pas avoir conscience de la force qui les situe au-dessus des hommes, des partis et même des lois. Cette fascination, évidemment troublante, pour les leaders fascistes, se retrouve chez Queloz, avec qui Bataille va bientôt fonder le collège de sociologie. Pour l'auteur du Mythe et l'Homme, le pouvoir équivaut de même, je cite, à une force de la nature ou à une force magique, le mana. Une force contre laquelle, et je cite toujours Queloz, il est dénué de sens de récriminer. Pour Bataille comme pour Queloz, le handicap des démocraties n'est pas militaire. Ça n'est pas une question du nombre de tanks ou d'avions. Le handicap est psychologique et il est social. L'absence d'un centre magnétique capable de mettre en branle l'énergie de masse et de l'agréger. Pour finir, un troisième facteur qui tient à la génération. Comme beaucoup de penseurs à l'époque, Bataille souffre d'un complexe d'infériorité et de culpabilité sur le plan politique. Depuis l'engagement massif des clercs, 20 ans plus tôt, lors de l'affaire Dreyfus, celui qu'on appelle désormais l'intellectuel ne peut se contenter de rester sur la touche et contempler l'histoire. Il lui faut y participer, éventuellement la faire. Cet activisme politique, au détriment de l'abstraction littéraire, est commun à tous les membres du Collège de sociologie. De la même façon, la rupture de Bataille avec le surréalisme a lieu par un rejet de l'activité, je cite, « purement littéraire » d'André Breton, accusé d'icarisme, d'envolée. Malgré ses tentatives de rapprochement avec le Parti communiste, le chef de la centrale surréaliste reste pour Bataille un idéaliste matiné d'un cabot qui prend les élucubrations de l'écriture automatique pour la réalité des faits. D'où cette phrase ironique, je cite, « Toute l'existence purement littéraire de Monsieur Breton conduit à une fuite vers des hauteurs d'où il semble facile de maudire ce bas monde. » Bataille n'a cessé d'être fasciné par l'idée de la communauté. Mais c'est à un moment relativement précis que cette idée s'impose à lui avec un maximum d'urgence, comme l'ultime possibilité d'échapper à l'impasse historique où la faiblesse des démocraties d'une part, la violence totalitaire de l'autre, l'ont acculé. Bataille n'a pas donné de définition de la communauté. Et au fil des textes, sur plus de 20 ans, ses contours changent. De façon générale, la communauté se présente comme un organisme social de taille extensible, du couple des amants à l'universel. Un organisme où l'individu touche au sommet de l'existence en brisant ses limites pour s'ouvrir sur l'autre. Sous cet aspect d'extase existentielle, la communauté est pour Bataille synonyme de totalité. Le premier atout de l'être ensemble communautaire est ainsi de résister à la fonctionnalisation et à la spécialisation que la Gesellschaft impose aux hommes. Et je cite Bataille, « Un être humain est dissocié, il a perdu son intégrité. Quand il renonce à l'existence en échange de la fonction, quand il se voue à un travail utile qui n'a pas de sens par lui-même, il ne peut trouver la plénitude de l'existence totale que séduit. » L'autre point essentiel concernant la communauté de Bataille est sa différence avec le modèle classique de la communauté chez Tönnies. Alors que la Gemeinschaft, fondée sur le sol et le sang, est primaire ou naturelle. Souvenez-vous la citation que j'ai faite. Bataille parle, lui, d'une communauté seconde. Ce qui signifie que cette communauté se forme à la suite d'une séparation avec l'ordre social en place. En fait, la communauté seconde est proche du modèle théorique développé par Schmalenbach, un autre théoricien, un autre sociologue allemand, contemporain de Tönnies. Et le modèle proposé par Schmalenbach est le modèle du Bund, qui vient du verbe binden, unir intimement, et on peut traduire en français alliance communielle. Il est par exemple significatif que Schmalenbach trouve une illustration du Bund dans les mouvements de jeunesse qui vont se créer en Allemagne après la défaite de 1918 et d'où sortiront bon nombre des leaders militaires du régime nazi. De même que le Bund, la communauté seconde se forme par une rupture avec l'ordre établi quand cet ordre est vécu comme inacceptable. On quitte la communauté, la société, pardon, la Gesellschaft, parce que existentiellement, il nous est impossible de continuer d'y vivre. Et les exemples donnés par Bataille parlent d'eux-mêmes, les ordres religieux, ou encore les sociétés secrètes, dont les membres sont admis par initiation. Enfin, la dernière caractéristique de la communauté seconde est la nature du lien qui unit ses membres. La communauté repose sur une sélection naturelle. À la différence de la Gemeinschaft, le lien communautaire ne tient pas à l'appartenance de fait. Elle n'est pas territoriale ou familiale. Elle relève de ce que Bataille appelle des affinités électives. C'est le mot, affinité élective. Aujourd'hui, on pourrait dire atome crochu, si vous préférez. En d'autres termes, les membres se rassemblent. Pourquoi ? Parce qu'ils se reconnaissent. Parce que leur union répond à une sorte d'attraction nécessaire. Et sur ce plan, Kelloi va plus loin. Il fait passer la frontière de la communauté, sa séparation d'avec la société, par la distinction entre, je cite, deux classes d'êtres aux réactions aussi différentes que s'ils appartenaient à des espèces animales dissemblables et aboutissant à des conceptions du monde et à des tables de valeurs inconciliables. Dedans, dehors. Vous faites partie du club ou vous êtes un mécréant. Quant à la visée politique de cette élite communautaire, elle est claire. Le but est ni plus ni moins de rajeunir et de réinventer le social. Malgré leurs divergences, Bataille et Kelloi s'accordent sur un point capital. Isolé dans la masse, l'individu ne peut changer le monde. Pour le faire, il lui faut intégrer une organisation de semblables qui multiplie ses forces. Face à l'automisation et à l'apathie de la Gesellschaft, la communauté seconde est destinée à faire de l'individu la cellule mère d'un renouvellement social. La société administrative est encrassée, écrit Kelloi. La turbulence de la confrérie lui rend la jeunesse et la vie. Également cette phrase de Nietzsche dans La volonté de puissance qui revient en leitmotiv dans les textes de Bataille et Kelloi. Je cite « La dissolution des mœurs de la société est un état dans lequel apparaît l'ovule nouveau ou les ovules nouveaux, individus, qui contiennent le germe des sociétés nouvelles. L'apparition des individus est le signe que la société est devenue apte à se reproduire. Du surréalisme au collège, Bataille va tenter de réaliser la communauté en participant à des groupes et à des revues éphémères où théorie et militantisme politique sont inséparables. Documents, la critique sociale, contre-attaque, acéphale, et enfin le collège de sociologie. Mais la chose remarquable est que le passage d'un groupuscule à l'autre se fait dans le sens d'une radicalisation croissante, d'un appel toujours plus urgent à passer à l'action. Il ne suffit plus de critiquer la Gesellschaft au niveau du discours, il faut la faire sauter physiquement par l'action révolutionnaire des masses. Cette époque, et cela ne vous surprendra pas, est aussi celle où Bataille vit de plus en plus mal sa position d'intellectuel. Homme des mots ou homme de papier. Comme il l'écrit en juillet 39 à Roger Queillois, je cite, « Ma pire réserve pour la frénésie avec laquelle vous tenez à vous dire intellectuel. Je veux bien me reconnaître intellectuel, il n'a pas le choix, mais je refuse d'ajouter des phrases qui laisse croire qu'un intellectuel qui se limiterait volontairement puisse encore être droit et honnête. » Fin de citation. Complexe de culpabilité politique. Nous avons vu qu'en 1931 et 1934, Bataille avait publié dans la Critique sociale deux de ses articles les plus audacieux. La notion de dépense et la structure psychologique du fascisme. Pourtant, malgré son extrémisme, la Critique sociale reste encore une revue, c'est-à-dire un ensemble de textes où la révolution est envisagée sur un plan théorique. Un pas supplémentaire est franchi 2 ans plus tard avec la création du groupe Contre-attaque. Cette fois, il ne suffit plus de parler ou d'écrire. Je dirais même plus qu'il ne faut surtout pas parler et surtout pas écrire. Il faut passer à l'acte en déclenchant l'insurrection de masse. Je vous lis un extrait, l'extrait d'un cahier du groupe Contre-attaque intitulé « Front populaire dans la rue ». Le Front populaire tel qu'il est, tel qu'il vient au pouvoir en 1936 ne suffit pas. Parce que c'est un pouvoir qui repose encore sur la légalité, sur le suffrage universel. Bataille parle ici de front populaire dans la rue. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous nous adressons, nous, aux impulsions directes, violentes, qui peuvent contribuer au sursaut de puissance qui libérera les hommes des absurdes maquignons qui les conduisent. Nous savons que de telles impulsions ont peu de choses à voir avec la phraséologie inventée pour le maintien des positions politiques. Nous ne croyons pas possible d'aborder une question politique sans élever le débat. Mais pour nous, élever le débat veut dire le placer dans la rue, là où l'émotion peut s'emparer des hommes. Et Contre-attaque est aussi le moment où Bataille développe l'idée de ce qu'il appelle un surfascisme. L'emploi d'une méthode révolutionnaire qui consiste, je cite, à utiliser les armes créées par le fascisme, l'aspiration fondamentale des hommes à l'exaltation et au fanatisme, pour mobiliser les forces populaires. Enfin, l'année suivante, après la dissolution du groupe, que Breton va finalement accuser de développer, je cite, des tendances dites surfascistes, dont le caractère purement et simplement fasciste sont de plus en plus flagrants. Fin de citation. Eh bien, après la dissolution du groupe, Bataille crée Acéphale. À la fois une revue au ton prophétique et une société secrète dans laquelle les membres sont unis par des actes rituels. Il s'agit de quelque chose de très sérieux puisque certains de ces actes peuvent même aller jusqu'à la mort. Dans son recueil Approche de l'imaginaire, 30 ans plus tard, évoquant Acéphale, Kelloy parlera d'un sacrifice humain consenti. Bon, j'en viens au collège. Eh bien, la première chose à dire, c'est que par rapport à ces entreprises, disons, anti-intellectuelles, le collège de sociologie, qui officie de novembre 39 à juillet 39, à juillet 39, représente un tournant. Pour deux raisons. Tout d'abord, le collège est pour Bataille l'ultime occasion de réaliser la communauté dans sa double dimension théorique, ou disons intellectuelle, et politique. Le champ d'étude du collège est décrit dans un texte manifeste qui porte la signature des six principaux membres sous le nom de sociologie sacrée. Évidemment, employant ce mot sacré, il faudrait développer et parler de son importance pour Bataille. Parler de ce que Bataille appelle l'hétérologie, comme science de l'excès, science de la dépense non productive, ou encore comme science de ce qui est tout autre, science de la différence non explicable. Il faudrait parler également de l'importance du livre de Roger Kelloy, qui va paraître en 1939, L'homme et le sacré. Mais, pour l'instant, contentons-nous de dire que la sociologie sacrée du collège privilégie en premier lieu l'étude de la cohésion et de la dynamique sociale. Et en particulier, les phénomènes de foule. Le but de cette sociologie sacrée, qui est en complète opposition avec la sociologie officielle de Durkheim, vous savez que Durkheim voulait qu'on considère les faits sociaux comme des choses, eh bien, l'un des principaux intérêts de cette sociologie sacrée et d'expliquer les causes profondes pour lesquelles certains objets ou certains êtres ont le pouvoir d'agir avec une force impérative sur leur environnement. Par exemple, le totem ou le magicien dans les sociétés primitives, le chef charismatique dans les fascismes. Ensuite, concernant le collège, il y a la rencontre, et c'est peut-être là le point principal, il y a la rencontre de Bataille avec Alexandre Koïev. Émigré de Russie, Koïev enseigne la philosophie de Hegel à l'école pratique des hautes études de 1933 à 1939. Bataille assistera à plusieurs de ses conférences, dont l'une aura lieu au collège en décembre 1939. Dans cette conférence, intitulée « Les conceptions hegeliennes », Koïev oppose deux types humains. L'homme à cheval, c'est son mot, le guerrier conquérant, dont l'archétype est Napoléon, et par opposition, le plumitif, le poète romantique, représenté par Novalis. Alors que le premier, Napoléon, je cite, agit avec succès dans le monde réel où il s'impose effectivement à tous, le second, substituant le langage à l'action, je cite, s'anéantit dans son propre néant littéraire. Et Kojève poursuit, le poète romantique a voulu être Dieu, et il avait raison de le vouloir, mais il n'a pas su s'y prendre. Il s'anéantit dans la folie ou le suicide. C'est une belle mort, mais une mort quand même. Un échec total et définitif. L'impact de cette conférence sur Bataille est énorme. Pourquoi ? Parce qu'elle le force à choisir entre deux options. Être Napoléon, être Novalis. Soit faire l'histoire, soit écrire des livres. Dans un premier temps, dans la lettre où il répond à Kojève, lettre à X, chargée du cours sur Hegel, Bataille semble se résigner. Il semble accepter le verdict qui réduit l'intellectuel à l'impotence historique. Je cite, « Devant vous, écrit-il à Kojève, je n'ai d'autre justification de moi-même que celle d'une bête criant le pied dans un piège. » Pourtant, 3 mois plus tard, lors d'une intervention au collège, Bataille relance le débat. Dans la conférence « Ordre, société secrète, Église » de mars 1938, il oppose à son tour 3 types humains. Le buteur armé, l'homme de la tragédie et de la loi, et du discours, pardon, l'homme de la loi et du discours, excusez-moi, qu'il appelle aussi l'homme de la comédie, et enfin l'homme de la tragédie. Le buteur, l'homme de la loi et du discours, l'homme de la tragédie. Le premier type, le buteur, se caractérise par son refus des conflits intérieurs. Il projette ses forces physiques au dehors, nous dit Bataille, dans l'histoire et sur les autres. La spécialité du second type, l'homme de la loi et du discours, le légaliste, est tout simplement de causer. Il monte sur un podium et il vend son programme. Chacun de ces deux hommes est facile à identifier. Pour le buteur, c'est le Napoléon de Kojève. Autant dire, dans le contexte de l'époque, c'est Hitler, Mussolini ou Staline. Quant au second, l'homme de la loi et du discours, c'est bien sûr le politicien de la Troisième République. Le sophiste et le comédien, trop lâche pour agir et qui préfère manipuler la foule par la parole. Beaucoup plus énigmatique et intéressant est l'homme du troisième type, l'homme de la tragédie. 2 traits le définissent, lucidité, revue. Lucidité face à l'insanité de l'histoire actuelle et refus d'opter pour un camp politique, soit pour la violence du buteur, soit pour les mensonges du politicien. Primordialement, l'homme de la tragédie est conscience, activité humaine en mouvement, activité de l'intelligence. À l'inverse du buteur, nous dit Bataille, il intériorise ses tensions au lieu de les projeter au dehors. Il voit clairement les contradictions et l'absurdité de son époque. Le monde est fou. Mais au lieu, ou plutôt contre cette absurdité, il refuse de démissionner et il persiste à affirmer la conscience critique devant, je cite, une réalité qui ne lui laisse d'autre issue que le crime. Fin de citation. L'histoire ne vous offre aucun choix humainement acceptable. Nous allons voir que pour Bataille, l'intérêt de l'homme tragique est essentiellement stratégique. Il lui permet d'éviter le piège de Kojève. et il lui permet de frayer, d'ouvrir une troisième voie qui va déjouer l'alternative entre l'action violente et l'inefficacité des mots. À première vue, échapper à cette alternative en 1939, quand on est un intellectuel, ça n'est pas facile. Tout le problème est là. L'essentiel ici est de bien évaluer l'écart entre l'homme tragique, présenté par Bataille, et l'homme tragique ici, bien sûr, c'est lui-même, c'est l'intellectuel des années 30. L'écart entre l'homme tragique et le poète romantique Novalis, dont parle Kojève, celui qui aboutit à un échec total et définitif. Comme Novalis, Bataille n'est pas un homme d'action. Il pense et il écrit. Mais il y a une grosse différence. À la différence du poète, cette activité, l'activité intellectuelle de Bataille, même si elle est purement intérieure, cette activité ne dépend pas d'une décision de sa part. Elle lui est imposée de force par l'histoire, par l'impossibilité d'agir, où le place son époque en l'acculant au choix entre la dictature et les mensonges politiques. Et cette distinction, elle apparaissait déjà dans la lettre à Kojève qu'il avait écrite quelques mois auparavant. Voilà ce qu'il dit. C'est une phrase essentielle. « Ma position, écrit Bataille à Kojève, est celle d'un homme qui n'a plus rien à faire. Et non pas celle d'un homme qui préfère parler. » Nuance. Cette position de l'homme conscient, qui refuse d'agir en se faisant complice du meurtre collectif, est difficile à tenir. Le principal obstacle pour l'homme de la tragédie, c'est sa propre tendance à déserter la réalité pour s'isoler dans la pensée et le langage. C'est un risque énorme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait que ce risque est de se faire récupérer. Soit, comme l'écrit Bataille, de voir ses tensions intérieures et sa prise de conscience, je cite, « devenir peu à peu littérature, puis comédie méprisée ». Difficile, quand on écrit, de ne pas être assimilé finalement, à un amuseur public. La seule façon pour l'homme tragique de faire entendre sa voix dans le tumulte de l'histoire, elle est, finalement, d'unir ses forces à celles de ses semblables. Autrement dit, de collectiviser et d'amplifier sa vision du monde au sein d'une communauté seconde. Et c'est en effet, en conclusion à cette conférence, que se situe la phrase dont nous sommes partis, où Bataille affirme la nécessité de la communauté seconde comme le seul moyen de faire prévaloir la conscience critique face à la folie meurtrière. Je cite, « Comment, face aux réalités du monde actuel, est-il possible à l'homme de la tragédie d'imposer silence à ce qui l'entoure ? Je réponds que l'empire auquel appartient l'homme de la tragédie peut être réalisé par le moyen de la communauté élective, et j'ajoute qu'il ne peut être réalisé que par ce moyen. » C'est précisément à ce point, dans cette conférence sur les ordres et les sociétés secrètes, que se situe le tournant concernant les fondements de la communauté. Car la communauté n'est plus ici celle que Bataille a quêtée dans ses tentatives pour refaire l'histoire, dont certaines, comme le surfascisme, menaient à la dérive. Le but n'est plus d'effectuer la totalité dans le matériel, en provoquant le grand soir révolutionnaire ou en consolidant l'alliance communielle au prix d'un sacrifice humain. Non. Pour la première fois, Et ça, c'est capital. Bataille admet l'idée d'une communauté uniquement spirituelle. Ce que j'ai appelé une communauté des consciences, dont les membres sont liés, non par un but précis, mais par leur clairvoyance de la tragédie. Leur lucidité face au no man's land existentiel, où les a jetés la folie de leur temps. Ceci dit, ce n'est pas au collège de sociologie, fermé pour cause de guerre en juillet 1939, que la communauté prend forme. Mais c'est à travers deux textes écrits pendant l'hiver 41 et le printemps 42. Le coupable et l'expérience intérieure. Le principe moral et l'économie de ces textes sont donnés dans le prière d'inséré qui décrit le coupable comme, je cite, « un jeu sans refuge, égarement, angoisse au départ, essentiellement violence rentrée. » Essentiellement violence rentrée. En apparence, la phrase ne fait que reproduire l'opposition entre le butor et l'homme tragique. L'un qui expulse ses tensions dans l'histoire sur les autres, l'autre au contraire, qui les internalise dans une réflexion sur le devenir de l'humanité. Violence rentrée. Cependant, ce qui change, c'est que l'opposition s'applique à présent non pas seulement à deux types humains, et à deux modes de faire l'histoire, butor, homme tragique, action, réflexion, elle s'applique à la possibilité même de l'être ensemble. La communauté du coupable et de l'expérience n'est plus cette totalité obtenue par sélection naturelle, elle n'est plus cette aristocratie de surhommes chargés de l'histoire, hein, dont on a parlé tout à l'heure. La seule réalité de cette communauté est désormais l'examen de conscience, la question infinie qu'elle se pose à elle-même concernant sa propre légitimité. La question de l'être comme être social, la question de l'homme comme être social. Communauté des particules individuelles solidaires dans leur expérience de la finitude et du besoin d'autrui. Quel est l'enjeu moral et politique du coupable et de l'expérience intérieure? Quel est l'enjeu moral de ces textes? Un moyen de répondre est de partir du compte-rendu de Sartre lors de la publication de l'expérience en 1943. Et le titre que Sartre donne à son article résume à lui seul le contenu. Un nouveau mystique. Bataille dans l'expérience intérieure est pour lui un nouveau mystique. Et pour Sartre, la faiblesse du livre vient du manque d'engagement et de l'égocentrisme de l'auteur. D'inspiration marxiste, la critique de Sartre montre très bien qu'il n'aperçut ni le sens ni la portée de l'expérience. Le fait que l'expérience soit l'équivalent d'un exercice cathartique dont le but est de purifier l'homme du désir d'être tout. En 1932, Bataille donnait dans la notion de dépense, comme exemple d'activité non productive, non soumise à l'utilité, un type particulier de littérature, la littérature qu'on appelle communément littérature maudite. Vous savez, Sade, Baudelaire, Lautréamont, Rimbaud. Et c'est à propos de cette littérature associée au mal qu'il définissait le sacrifice de la façon suivante. Je cite, « une production au moyen de la perte ». Le sacrifice, c'est une production au moyen de la perte. Dix ans plus tard, cette économie sacrificielle décrit exactement le mouvement de l'expérience intérieure. expérience dans laquelle la perte s'applique au désir de totalité, c'est-à-dire au désir faustien d'un pouvoir absolu, alors qu'en revanche, la production n'est rien, ou tout du moins rien de tangible, rien qui puisse apporter un profit quelconque ici, maintenant, rien sinon la conscience de la limite humaine à travers l'épuisement du sens, après que toutes les ressources de l'intelligence aient été dépensées dans la consommation des mots. Cette vertu cathartique de la dépense intellectuelle apparaît dès l'avant-propos du livre. Et je cite Bataille, « Nous ne sommes pas tout, n'avons même que deux certitudes en ce monde, celle-ci et celle de mourir. Ne plus se vouloir tout est tout mettre en cause. Je voulais être tout. Que, me prenant de courage, je me dise, j'ai honte d'avoir voulu l'être. Dès lors commence une expérience singulière. L'esprit se meut dans un monde étrange où l'angoisse et l'extase se composent. » Eh bien, Sartre commet une bévue incroyable lorsqu'il voit dans l'expérience un reliquat du mysticisme. C'est vrai, Bataille fait référence à Saint Jean ou à Sainte Thérèse. Il fait référence à ce qu'on appelle la théologie négative ou la théologie apophatique. Mais justement, il inverse le sens et la destination de la mystique classique. Il emprunte à la mystique une approche négative du sacré, qui consiste à définir l'objet ou l'être transcendant, non par ses attributs, mais justement par ce qui en lui excède la représentation du mot. Dieu n'est pas ceci ou cela, il est ce qu'on ne peut pas dire de lui. Il est l'ineffable. Mais, à la différence du mysticisme traditionnel, Bataille refuse de réduire cet ineffable à l'idée d'un ordre ou d'un pouvoir suprême, divin, face auquel l'homme devrait s'incliner. L'expérience intérieure reste foncièrement athée. Elle repousse la présence d'un havre ou d'une réponse ultime qui mettrait un terme au tragique humain. Ce qui caractérise une telle expérience, qui ne procède pas d'une révélation, où rien non plus ne se révèle, écrit Bataille, sinon l'inconnu, c'est qu'elle n'apporte rien d'apaisant. Alors que la mystique traditionnelle trouve un happy ending avec la fusion du moi et du tout, l'effort de la conscience dans le texte de Bataille, la dépense du langage, révèle ce qui est la condition même de la communauté. Elle révèle l'insuffisance de l'homme, l'insuffisance de la monade individuelle et la nécessité de communiquer avec cela qui la dépasse. La nécessité de s'ouvrir simultanément sur l'au-delà du sens, le grand autre comme tout autre, le divin, le sacré, et sur le petit autre comme tous les autres, sur autrui, frère dans le langage et dans la conscience de la tragédie. Je cite l'expérience intérieure, « Le sujet est conscience d'autrui. Il se perd dans la communication humaine. En tant que sujet, il se jette hors de lui, s'abîme dans une foule indéfinie d'existence possible. » Le ton condescendant de Sartre montre l'embarras que lui cause le texte de Bataille, un texte inclassable par la philosophie classique. En bon intellectuel de gauche, Sartre réduit l'expérience à une délectation morose, vaguement narcissique, et sans plus de valeur que, je cite, « le plaisir de boire un verre d'alcool ou de se chauffer sur une plage au soleil ». En fait, à courte vue, Sartre a raison. Rien ne distingue l'exercitant du poète romantique. rien ne distingue bataille dans l'expérience de Novalis. Et pourtant, il y a une distance incommensurable. Chez le littérateur de profession, il y a un besoin d'autosuffisance que Kojève va lui-même bien analyser. Le poète estime qu'à l'aide des mots, il a conquis la reconnaissance de la société. C'est une reconnaissance illusoire, bien sûr, il ne fait pas l'histoire. Mais cette reconnaissance lui apporte au moins une satisfaction, voire même une glorification personnelle. Il devient le génie, le surhomme de papier. Kojève conclut, le poète fuit le monde, mais non lui-même. Il est le seul moi qu'il connaisse, le seul moi qui l'intéresse. Et c'est justement cette gratification illusoire qui est refusée dans l'expérience. Dans l'expérience, la dépense à perte du langage ne relève pas d'un choix pour s'approprier la gloire personnelle. Elle s'impose comme un impératif moral. Souvenez-vous de l'homme dans la tragédie. Parler, écrire sont la seule arme dont notre conscience dispose face à la catastrophe. La représentation en mots ne procure pas un sentiment de plénitude et de pouvoir. Elle a au contraire le sens d'un sacrifice symbolique, ou, comme écrit Bataille, et c'est une expression d'une importance capitale, un sacrifice où les mots sont les victimes. Ce sacrifice équivaut à une expiation au sens défini par Kelloy dans l'homme et le sacré. Ex, extirper, faire sortir. Piare, pius, l'élément sacré. Soit ici faire sortir de soi, évacuer le désir de totalité. Évacuer le désir de posséder pour soi et pour soi seul le savoir ou le pouvoir suprême. Le coupable et l'expérience enregistrent un déplacement majeur. En 1934, à l'époque de la critique sociale, l'insurrection de masse était la seule solution à la crise politique. Je cite, « Les difficultés sociales ne sont pas résolues avec des principes, avec des mots, mais avec des forces. » 10 ans plus tard, dans un texte de 48, je cite, l'action révolutionnaire, ce n'est plus l'action révolutionnaire qui doit sauver le monde, mais la mise en abîme de la conscience critique. Nous ne pouvons être que conscients, écrit Bataille, et c'est en nous enfonçant dans la conscience que nous pouvons tenter de transgresser les difficultés du monde actuel. Eh bien, cet enfoncé dans la conscience est un acte politique au sens plein. Au lieu de prendre le train de l'histoire en marche, comme tant d'autres l'ont fait à son époque, l'homme qui pense et qui écrit se révolte contre elle. En 1952, lors de la polémique entre Sartre et Camus, qui suit la parution de l'homme révolté, Bataille soutient Camus en défendant l'idée d'une insurrection intellectuelle et morale, contre, je cite, une histoire qui inexorablement accule l'espèce humaine au suicide. Et voilà ce que dit Bataille. Il est assez ridicule de nier l'histoire, mais du moins pouvons-nous, si nous sommes pour cela assez forts, assez lucides surtout, prendre sur nous de lui imposer un refus. Contre l'histoire, nous pouvons, en un mot, nous révolter. J'ai outrepassé les limites du temps imparti, donc je vais peut-être m'arrêter là, mais est-ce que vous êtes prêts à 10 minutes et quart d'heure de plus? Je vous remercie de votre générosité. Ce qui est très important concernant le coupable et l'expérience intérieure, c'est aussi les circonstances dans lesquelles ces deux œuvres ont été écrites. La préface du coupable indique que le livre a été dicté, et là je cite, par des circonstances favorables, indépendantes de l'avis de l'auteur, qui tiennent à la déclaration de la guerre de 39. Pratiquement, écrit Bataille, l'auteur a formé ce livre à partir du journal qu'il rédigea, décidé par un mouvement qu'il n'aurait pu dominer du jour où la guerre éclata. Il fallait la guerre, il fallait la solitude, Bataille est cloîtré. Il fallait la proximité de la mort pour que ces textes s'écrivent en quelque sorte d'eux-mêmes. Et Bataille écrit, en relisant ces pages, l'auteur s'aperçut qu'il n'avait jamais rien écrit, à quoi il tint de la même façon, rien qu'il l'exprimât si pleinement. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en écrivant ces textes, Bataille découvre que ce qui parle en eux, ce n'est plus moi, et mon désir de me faire reconnaître en devenant tout, d'être le messie de la Révolution ou le grand écrivain du siècle. Ce qui parle à travers eux, à travers le questionnement sans fin et la dépense des mots, ceux, c'est EUX qui parle, ce sont les autres, tous les autres, la civilisation universelle et dans son mouvement, l'histoire elle-même. Je cite cette très belle phrase, le tiers, le compagnon, le lecteur qui m'agit, c'est le discours. Ou encore, le lecteur est discours, c'est lui qui parle en moi, qui maintient en moi le discours vivant à son adresse. Le discours est le lieu formateur de la communauté, l'unique moyen pour l'homme de tester ses limites. Les limites de sa finitude. Le langage, le discours, c'est l'espace de l'humilité. À travers le discours, ce qui est mis en partage, c'est effectivement cette conscience de la finitude. Cette communauté de tous les êtres assez lucides et courageux pour regarder en face le tragique de leurs conditions et en même temps la grandeur de cette condition. L'angoisse que tu ne communiques pas à tous tes semblables, écrit Bataille, est en quelque sorte méprisée et maltraitée. Bataille accorde une nécessité anthropologique à la littérature. Pourquoi ? Parce que le propre de la littérature, c'est de donner à voir cette limite extrême, il n'y en a pas d'autre, on ne peut pas aller plus loin, qui est pour nous la mort. L'homme n'est pas seulement un animal économique soumis à sa conservation, il a avant tout liberté infinie, ou comme dit Bataille, souveraineté. C'est-à-dire inventeur et metteur en scène de sa propre existence. Dans l'homme, je cite, c'est l'animal, c'est l'être naturel qui mange. Mais l'homme assiste au culte et au spectacle. Ou encore il peut lire. Alors la littérature prolonge en lui la magie obsédante des spectacles tragiques. Fin de citation. L'art littéraire agit comme un révélateur. Un révélateur sans lequel, je cite, nous resterions vis-à-vis de la mort étrangers, ignorants comme le sont les bêtes. Par l'entremise des mots, l'homme peut faire, en vivant, l'expérience de sa propre mort. D'une mort qui n'est pas la mort biologique, mais, je cite Bataille, la mort humaine. La seule qui effraie et qui glace, mais qui n'effraie et ne glace que l'homme absorbé dans la conscience de sa disparition future. Et cette conscience de notre mort, nous ne pouvons l'atteindre sinon à travers l'exercice des mots. Avec l'expérience intérieure, la communication comme mise en commun à travers les mots de la limite humaine et la communauté deviennent indissociables, non pas comme deux attributs qui seraient surajoutés à l'homme, mais comme constitutives de son humanité. Et je cite à nouveau, « Quand je dis que l'homme est en nous, c'est que la communication est en nous, car l'homme existe dans la mesure où les hommes communiquent entre eux. Or, comment communiquer sans parler ? Je le veux, il me faut communiquer avec l'homme, être au supplice de l'être intelligent. » On est ici très loin de la communauté élective que Bataille cherchait avant-guerre. Qu'est-ce qu'un groupe, questionne-t-il à présent, sinon l'opposition de quelques hommes à l'ensemble des autres hommes ? Et qu'est-ce qu'une église, sinon la négation de ce qui n'est pas elle ? La condition sine qua non de la communauté exige de renoncer au monde empirique. Elle exige le renoncement à s'établir dans l'ici maintenant comme une totalité autosuffisante. Et je cite à nouveau cette phrase de l'introduction, « L'appartenance de toute communauté possible à ce que j'appelle, en des termes qui sont pour moi volontiers étranges, absence de communauté, doit être le fondement de toute communauté possible. » La communauté n'est possible que dans son absence. Cette phrase énigmatique est finalement très simple. Qu'est-ce qu'elle signifie ? Eh bien, elle signifie que de manière concrète, la communauté n'a et ne peut avoir ni lieu ni présence. Mais qu'en même temps, du fond de cette absence, elle persiste à faire l'histoire. D'une façon inouïe, la communauté ne vient à l'existence que dans l'immesure où la passion qui la désire transcende notre instinct de propriété. La communauté advient comme cette hors de prise auquel il faut que l'homme aspire pour construire son humanité. Mais un hors de prise, un désir de totalité, de communauté, qu'il lui faut en même temps expier pour conserver son humanité. En référence et en hommage au texte de Jean-Luc Nancy, « La communauté désœuvrée », je dirais que la communauté n'est pas désœuvrée parce qu'elle serait vacante ou au chômage, mais, et au contraire, parce que son exigence morale la force au-delà de l'œuvre comme présence, parce que le sacrifice de l'œuvre achevée et totalisée, que cette œuvre soit politique ou littéraire, le sacrifice de l'œuvre achevée et totalisée est la condition même de son existence. En conclusion, je dirais que ce que Bataille appelle l'achoppement fondamental de toute communauté fermée, le fait que la communauté, dès qu'elle cesse de communiquer avec l'extérieur, devient totalitaire. Cet achoppement représente exactement le dilemme de nos sociétés libérales. Individus solitaires, sans distinction spéciale, chacun de nous rêve d'un tout organique qui offre protection et reconnaissance. Mais en même temps, il nous est impossible d'accepter les contraintes que cette appartenance impose à nos idées de liberté et de tolérance. Dilemme donc. Et à ce dilemme, il n'y a pas de réponse positive. Seule la conscience qu'en prennent les individus, la force intérieure qu'ils opposent au charme de la fermeture, est susceptible non de résoudre le dilemme, mais de le penser dans une perspective inédite, non plus comme une impasse, mais comme une chance. La non-présence de la communauté n'est pas du tout un désaveu de l'être ensemble. C'est au contraire une incitation à l'effectuer différemment. Avec la fin des idéologies et de la plus puissante, le marxisme, l'achoppement totalitaire des sociétés fermées oblige à faire autrement l'histoire. En empruntant pour cela cette troisième voie, par laquelle Bataille a su éviter le piège de Kojève. Ce qui distingue le révolté moderne de ces révoltés du passé, écrit Bataille, est que sa révolte est consciente d'elle-même, en lui-même et dans les autres. Eh bien, cette révolte, qui est une révolte de la conscience morale face à un monde inacceptable, face à une histoire qui n'a laissé d'autre issue que le crime, cette conscience morale est aujourd'hui non seulement notre privilège, mais elle est notre devoir. La dernière chance pour nous de réaliser une démocratie qui ne soit plus la parodie d'elle-même, comme c'est souvent le cas dans notre Gesellschaft électronique, où le verbe communiquer s'est vidé de sens. Dernière chance de réaliser une démocratie délibérative et participative, une démocratie des associations, les associations dont Tocqueville disait qu'elles étaient la science mère des sociétés libres. Autrement dit, tant qu'il se tient dans les limites de cette conscience, le désir de communauté est légitime. Et plus que légitime, il est nécessaire à l'avenir du vivre ensemble. Car si nous étions insensibles à la séduction que l'absence de communauté exerce sur nous, nous serions incapables d'embrasser toutes les dimensions du possible humain, incapables d'évaluer cette divinité sous condition, cette divinité contenue par notre clairvoyance de la finitude que Bataille appelle la souveraineté. Et je cite cette très belle phrase de l'expérience, « Dieu n'est pas la limite de l'homme, mais la limite de l'homme est divine. » Autrement dit, l'homme est divin dans l'expérience de ses limites. Et enfin, sans cette aspiration souveraine à tester nos limites pour sortir de soi et se risquer à l'autre et aux autres, nous ne pourrions envisager l'utopie d'une communauté sans frontières qui redonne au mot « souveraineté des peuples » une valeur authentique. Une république universelle où le critère d'appartenance irait plus profond que le grand guignol politico-médiatique et le rituel des urnes. C'est pourquoi il nous faut continuer à vouloir la communauté, nous enfoncer dans son dilemme, continuer à interroger, penser, dire et écrire l'attraction de son manque. Et, pour faire l'histoire, ensemble, ne jamais cesser de communiquer. Merci d'être resté.